Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
La bulle immobilière. La bulle avec
votre animateur
Jean-François Morin.
Jeff
Morin. Courtier immobilier.
Et son co-animateur
Kevin Filion.
À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier.
Et on jase
des questions,
des réponses
pour tout ce que vous devez savoir
dans l'univers immobilier.
La bulle immobilière.
Bienvenue à la bulle immobilière. Vous étiez à l'écoute de La Sauce. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison. Et je suis toujours avec mon acolyte Kevin. Comment ça va?
Ça va bien, toi, Jeff?
Ça va super bien. Écoute, on a une ambiance de feu. On a un sujet où ce que toi, tu t'y connais. Tu as eu l'opportunité, back in the days, tu as eu l'opportunité de travailler avec plusieurs partenaires d'affaires. Écoute, aujourd'hui, on démystifie les toitures. Puis, tu sais, dans les projets de rénovation, veut pas, c'est un incontournable.
C'est un gros morceau. C'est le parapluie, c'est le dessus. Et après la fondation, c'est pas mal le deuxième morceau le plus important de votre maison.
Puis après, les fenêtres.
Exact.
Puis aujourd'hui, on reçoit Jean-Michel Boivin, copropriétaire de Groupe DBL. Merci d'être avec nous. Je trouve ça vraiment le fun que tu sois présent avec nous. Puis aujourd'hui, Jean-Michel, tu vas nous parler de ton entreprise, de comment que ça allait débuter, pourquoi que vous êtes niché dans les toitures, puis qu'est-ce qu'on devrait savoir à titre d'investisseur ou à titre de propriétaire sur les gros must à savoir sur les toitures? C'est un peu ça?
Oui, salut Jeff, salut Kevin. Salut. Premièrement, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. C'est ça, dans le fond, moi je suis ici aujourd'hui un petit peu pour parler là, quoi faire attention, quels sont les bons produits, quoi regarder là, lors de l'inspection d'une toiture.
Puis toi, tu es un gars de Québec?
Oui, je suis un gars de Québec. Dans le fond, j'ai grandi à Québec. Je suis né à Québec. Moi, dans le fond, j'ai été dans l'Outaouais dans mon adolescence. Je suis revenu à Québec au début des années 2000. Puis j'avais tout le temps un rêve en dedans de moi qui était de devenir un entrepreneur. Mon beau-père, c'est un entrepreneur. Il était dans le domaine de la restauration. En dedans de moi, je sais pas pourquoi, tu sais, j'avais de quoi, ça vibrait en dedans, mais je savais pas dans quel domaine, je savais pas dans quoi me lancer. Je travaillais chez Canac comme livreur. Fait que je touchais un peu à construction, je voyais un petit peu c'était quoi, puis j'avais beaucoup d'intérêt, tu sais, je posais beaucoup de questions aux contremaîtres quand je livrais ces chantiers aux gars sur place. Puis, en dedans de moi, ben, ça m'a intéressé. Donc, ça m'intéressait. Puis, ça a donné que j'ai un ami, tout bonnement, qui avait son entreprise en toiture, que lui, il m'a comme approché, il dit « ça te tenterait-tu d'en faire avec moi les fins de semaine? » Puis j'ai dit « on va l'essayer.
Ouais. »
J'ai aimé ça, Je pensais jamais me travailler là-dedans un jour. Puis du jour au lendemain, il m'a comme offert de quoi. Puis là, on a comme embarqué ensemble. On était trois. Puis moi, dans le fond, c'était juste pour aller chercher un petit peu la paye que je faisais chez Canac. Puis, oui, tu sais, pour être à mon compte. Puis, du fil en aiguille avec le temps, mais c'est devenu ce que c'est devenu. Puis on,
c'est quand même
c'est un
grande entreprise là, dans la région de Québec. Vous avez quand même là une belle renommée, puis une renommée positive aussi, là, parce que dans la construction, on a toutes sortes de renommées.
On est exposé tout le temps.
Oui, puis ça, je trouve ça vraiment le fun. Puis tu disais aussi en pré-entrevue que c'était pas nécessairement ton plan de match. Là. Je pense que tu étudiais en cuisine, puis tu disais que peut-être c'était un plan d'affaires.
Oui, dans le fond, moi, mon beau-père, il croyait en moi, mais à l'adolescence, moi, j'ai eu un parcours un petit peu plus difficile. Là. Moi, j'aimais bien ça, m'amuser avec les amis, puis c'était...
Moins école.
Oui, c'est ça, j'étais moins école un petit peu. Ma priorité, c'était mes chums. Lui, il croyait en moi, il voyait le potentiel que j'avais à l'intérieur de moi. Fait que là, il m'avait comme fait un genre de deal. Il m'avait dit, va faire un DEP en cuisine. Puis il dit, si jamais tu réussis ton DEP, il dit je vais t'acheter une voiture. Puis de deux, il dit, on va ouvrir un restaurant ensemble. Fait que moi, j'ai dit, parfait.
Lifestyle of the rich.
C'est ça. Fait que j'ai réussi à faire de peine et de misère pour ouvrir mon DEP. À la fin de mon DEP, j'avais, je pense, c'était 15 modules à reprendre.
Okay.
Caroline, j'ai réussi à toutes les reprendre, j'ai tout passé, fait que j'ai accompli mon défi.
T'as-tu fait ça à Wilbrod, Bérard,
Non, j'ai fait ça à Buckingham, dans l'Outaouais. J'étais dans l'Outaouais. Ouais, j'ai fait mon adolescence là-bas. Puis suite à ça, dans le fond, j'ai eu la voiture. Mais là, quand c'était le temps d'ouvrir le restaurant, ils trouvaient que je n'étais pas encore assez responsable pour ça. Fait que,
il y avait un autre test à passer.
Oui, il y avait un autre test. Mais moi, je faisais l'inverse. Moi, j'attendais que lui ouvre le restaurant pour être plus sage. Mais ça, c'est pas de même, ça marche. Ça n'a pas marché de même. Fait que c'est ça. Fait que, au départ, c'était vraiment comme cuisinier. Puis finalement, on voit des fois, le plan, on le connaît pas. Puis
la vie d'un entrepreneur, ça. Là, écoute, on a une ligne directrice vers où qu'on s'en va, puis on en parlait un peu ce matin, tu sais, il est où le parc, là? Tu sais, on dit toujours c'est une balade dans le parc, etc. T'as une vie d'entrepreneur, là. Tu seras jamais là. Tu débrousses. Fait que ça, c'est quand même vraiment le fun. Puis tu sais, d'avoir un parcours aussi qui n'est pas nécessairement niché vers nos projections, puis faire en sorte qu'on devient quand même une entreprise reconnue pour la qualité, puis une entreprise qui donne des résultats aussi, bien, c'est vraiment pertinent, puis c'est vraiment intéressant aussi.
Bien, c'est ça. Je te dirais que DBL, tu sais, au départ, tu sais, moi et mes associés, on était trois bons amis, puis que je peux dire, on est des gars de cœur, tu sais, avec des belles valeurs, puis nous autres, tu sais, l'honnêteté, c'est important. On a beaucoup cherché à donner vraiment un service. Les clients, on les a vraiment dorlotés. Puis au fil des années, mais on a réussi à fidéliser plusieurs clients, que ce soit des entrepreneurs généraux ou bien des gestionnaires d'immeubles, que ce soit au niveau du service, que la qualité des travaux, mais surtout notre accessibilité. On est accessible. Oui. Puis ça, c'est de quoi vraiment que... aujourd'hui, on a de la demande, mais... On s'assure de rester accessible, justement, que ce soit pour monsieur, madame, tout le monde aussi, c'est important pour nous autres.
Puis dans les croissances d'entreprise, c'est toujours difficile aussi de garder toujours la proximité, parce que vient qu'à un moment donné, on s'éloigne, on s'éloigne de l'arbre, puis on voit la forêt, puis on ne reste pas nécessairement toujours connecté. Là, puis ça, c'est quand même super important.
Mais ça, c'est dur à gérer, parce qu'une croissance, on a commencé, on était tout petit, on avait une équipe de 5, puis aujourd'hui, on n'est pas loin de 70 à temps plein là, qui travaillent en saison forte. Puis la croissance, mais ça amène son lot de problèmes puis de risques aussi, mais de gérer cette croissance-là, il a fallu qu'on s'adapte. Honnêtement, ça n'a pas été évident. Il y a eu une année, on a doublé le chiffre d'affaires. Mais quand tu doubles, ça a des conséquences.
C'est pas que
souvent,
tu doubles les frais, tu doubles les ressources.
Tu doubles tout dans le fond.
C'est pas nécessaire. Puis tu doubles pas toujours la rentabilité pour autant.
Non,
bien souvent,
non,
pas au début.
Pas au début, même que dans les premières années, j'avais des trous dans la barbe, ça poussait plus. J'ai eu ça,
avec le stress, puis l'anxiété, puis tout ça.
Oui, parce que ça tue à la maison, évidemment. Ça tue dans le lit, ça tue partout.
Ben, c'est la famille, c'est tout Kekop, puis mes enfants, ben, ils étaient jeunes, mon plus vieux, les premières années, ils me voyaient pas. T'sais, moi, quand j'ai parti l'entreprise, je faisais de la moto avant d'avoir la compagnie. Quand j'ai vendu la moto, je faisais plus de moto. Je faisais des activités. T'sais, les fins de semaine, il n'y avait plus d'activités qui se faisaient les fins de semaine.
Les chums, c'était les gars au bureau.
Ben là, des amis, c'est les gars au bureau. Ah oui. Mes associés, dans le fond, mes amis, je les voyais plus, mes amis. Là.
Ah, définitivement. Puis la réalité, c'est que quand on a une croissance, c'est un chemin obligatoire. C'est plate de dire ça, là, mais c'est un chemin obligatoire.
C'est un choix.
Puis à un moment donné, ben tu sais, on veut reprendre aussi une certaine vie normale. Puis tu sais, c'est à vivre toutes ces épreuves-là qu'on vient prendre un pas de recul pour vraiment voir, tu sais, c'est quoi les prochaines étapes, puis tu sais, vers quoi qu'on le fait. Puis
c'est des phases normales, je pense, de tout mettre, sacrifier beaucoup, puis à un moment donné, faire « wow, OK, un petit peu, genre balance, genre rééquilibre,
ben,
puis
c'est ça,
faut
c'est
qu'il
ça.
M'en reste pour d'autres choses. »
Faut que tu essaies d'équilibrer tout ça, mais d'un autre côté, tu sais, l'entreprise, c'est mon bébé, hein, tu y crois, tu veux qu'elle réussisse, tu veux... puis pas juste ça aussi, t'as des employés après ça. Tu sais, quand tu grossis, t'as des employés, mais t'as des responsabilités envers eux autres.
Ouais, ouais.
Eux autres, ils ont des familles à nourrir aussi.
Oui, puis c'est des questionnements qu'on se pose aussi. Là, tu sais, quand on prend des décisions d'affaires, on prend plus une décision d'affaires juste pour le bottom line. On le prend aussi pour nos employés puis les familles avec lesquelles on a construit des liens ultra forts. Puis on a des employés qui sont ultra fidèles aussi. Là. Oui. Fait que tu sais, ça vaut la peine de prendre ces décisions-là, mais c'est pas toujours évident. La croissance, je vous en passe un papier, c'est pas facile. Puis la croissance, la gestion du cash flow, la gestion des comptes fournisseurs, etc., là, ça vient tout avec.
Ouais, c'est des gros chiffres aussi dans la construction. Là.
C'est des gros chiffres, c'est des grosses dépenses.
Puis on va se le dire aussi, c'est un domaine risqué. Là. Qui paye, qui paye pas, de quelle façon qu'ils vont nous payer, vont-ils nous retarder, pas retarder. Toi, tes employés attendent la paye, là.
Ben, c'est ça. Mais au début, c'est un peu ça qu'on a vécu. Il y a eu quand même beaucoup d'embûches. Puis au Québec, on est quand même géré par plusieurs, que ce soit la Régie du bâtiment, que ce soit la CSST, que ce soit la CCQ. Il y a plusieurs lois qu'il faut connaître. Puis c'est important de les connaître. Mais quand tu commences au départ, tu connais pas toutes. Les retenues de paiement, comme tu disais. Ouais. Moi, je me souviens, le premier gros contrat qu'on avait eu, c'est comme c'était une roue sans fin. Il était pas capable de nous payer parce qu'il voulait des lettres de conformité qu'il appelle, comme quoi tu es conforme à CSST et à CCQ.
Ouais.
Mais moi, je n'étais pas capable de les fournir parce que je n'étais pas capable de les payer parce que lui ne m'avait pas payé. Lui ne m'avait pas payé, dans le fond, c'était dans les premiers mois. Lui ne m'avait pas payé. Je n'étais pas capable de... Fait que là, puis après ça, les taxes aussi. Moi, je n'avais jamais payé de taxes chez Revenu Québec. Pas capable de payer les taxes. Une couple de mois après, une petite madame chez Revenu Québec qui a appelé, elle voulait une sûreté. Elle voulait qu'on donne une sûreté puis les taxes.
On l'apprend à la dure. Ouais, quand t'es dans un entrepreneur, là, t'as une ligne directrice, puis tu sais pas nécessairement de quelle façon tout gérer ça. Puis je trouve ça, je trouve ça motivant que des gars d'affaires réussissent aussi. Puis tu sais, on vit tous sensiblement les mêmes problèmes. Le mot change, la spécification change, mais tu sais, reste que l'ensemble de la structure de la business demeure quand même la même. Groupe DBL a fêté ses 10 ans en novembre 2021. Bravo.
Ouais, merci beaucoup. Ouais,
c'est quand même cool. Tu sais, 10 ans d'entreprise, c'est hot, là, c'est vraiment le fun. Toujours 3 actionnaires. Vous aviez parti 3 actionnaires. Vous êtes toujours 3 actionnaires. Puis, tu sais, je pense qu'il y a eu des changements en cours de route, etc. Mais tu sais, je trouve ça le fun aussi de pouvoir s'épauler avec d'autres personnes puis de pas être le seul qui mène la barque, puis de faire en sorte d'arriver avec des résultats, d'avoir du partenariat à l'intérieur de nos business. Ça nous amène à gérer le stress, à répartir les forces, puis de faire en sorte que l'entreprise avance plus vite. Là.
Ben oui, puis tu sais, moi, mes actionnaires, Carl puis Maxime, Carl, pour moi, c'est pas juste un partenaire d'affaires. C'est un frère, c'est un ami, c'est un collègue, c'est un confident. On va en voyage ensemble. Il y a des enfants du même âge que les miens. Nos femmes, ils s'appellent quasiment tous les jours. Ils jasent quasiment une heure ensemble par jour au téléphone. Tu sais, c'est de la famille. Ouais. On a vraiment créé une union de famille avec Maxime, qui est là, qui est récemment avec nous autres. Maxime, c'est mon cousin de famille, dans le fond, de sang. Maxime, c'est la même chose, des jeunes enfants. C'est toute la dynamique qu'on a réussi à créer. Mais ce qui est le fun, c'est que cette dynamique-là qu'on a entre nous autres, on a réussi à la reproduire, mais au sein de l'entreprise.
Ouais.
Ça veut dire que quand tu rentres dans le bureau chez DBL, ben, il y a trois générations chez DBL. T'as, dans le fond, Carl, t'as son père qui est encore là.
OK.
qui aide au niveau des commissions, puis les chantiers, à ce qui manque, rien. T'as Carl, puis t'as Carl, t'as ces trois gars qui travaillent pour nous autres aussi.
Wow! Oui, oui. C'est quand même cool.
Pour vrai, tu sais, c'est très familial, puis tu le ressens. Quand tu rentres dans le bureau, tu le ressens, puis quand tu vas sur le terrain aussi, tu le ressens. Tu sais, les employés, ils sentent que c'est à eux autres, ils travaillent avec nous autres, ils nous ont aidés à bâtir cette entreprise-là, puis... Ça fait que les résultats sont là aujourd'hui. C'est grâce à eux autres aussi.
Ouais, ça aide pour la résilience aussi, tu sais, en termes de team, dans le sens où, oui, tu peux avoir un partenaire d'affaires où c'est plus, disons, formel. Fait que quand ça va bien aller, ça va bien aller. Mais c'est quand ça va chirer ou quand il va faire chaud dans la cuisine que si tu as un lien plus fort, si tu sens que tu es une famille, tout ça, ben là, tu sais, c'est déjà, il y a du non-dit. Tu te regardes dans les yeux, tu fais comme, ça va être tough, ce bout-là, mais... C'est clair qu'on y va ensemble et qu'on est all-in.
Ben, c'est sûr. T'sais, moi et Carl, au départ, on ne sait jamais, en 10 ans, il n'y a jamais eu de prise de bec. Là, jamais. T'sais, c'est sûr que des fois, on a des opinions différentes, puis c'est tout à fait normal.
Ouais.
Mais sauf que la vision est la même, la façon de penser. Puis le fait qu'on soit proche comme ça, ben, ça fait en sorte que si jamais il y a de quoi, ben, on est capable de revenir dessus.
Exact. Puis quand arrive l'adversité, on a des solutions, puis on est capable de discuter de ça aussi, là, pas seulement de se fermer. Puis dire non, moi c'est ça ma position, puis on reste comme ça.
Ben oui.
D'ouvrir les discussions, c'est toujours important aussi. Puis DBL, c'est pas seulement une compagnie de toiture, parce qu'on peut penser toujours c'est une compagnie juste de toiture, etc. Mais vous faites beaucoup plus que ça maintenant. Là.
Oui, au départ, on a parti seulement toiture. Après ça, on avait greffé les portes et fenêtres. On a fait de la porte et fenêtre pendant un 7-8 ans certain. Mais là, on vient de fermer cette division-là. Et on a greffé aussi construction-rénovation. On fait des rénaux, que ce soit des petits projets ou des plus gros projets. On a su un peu de se diversifier. Là, puis je pense que c'est important aussi là, aujourd'hui là, d'avoir peut-être plusieurs...
Que ça soit moins saisonnier pour vous aussi.
Ben, c'est sûr, il y a ça aussi. Là, parce que quand tu es juste en toiture, des fois, c'est sûr que l'hiver, les employés, souvent, eux autres, ils veulent travailler.
Ben oui.
Ils veulent pas tant se reposer.
Des gars qui travaillent là, du 50, 60, 70 heures par semaine, puis là, arrivent à zéro, c'est sûr qu'ils cherchent.
C'est parce qu'ils réfléchissent aussi. Fait que là, il y a d'autres options, il y a d'autres choses. Tandis que quand tu les gardes toujours avec le lien avec toi...
Ça te permet de les garder, c'est ça. Puis aussi, avec les hivers qu'on a depuis une couple d'années, ils sont quand même rigoureuses. Les déneigements, les déglaçages, il y en a de plus en plus.
Vous faites ça aussi?
Oui, on en fait. Okay. Ça permet de faire travailler le monde aussi. Mais les employés, je vais vous dire, ils sont travaillants. Ils aiment ça.
Et en même temps... on a la division rénovation. Vous avez aussi une expertise aussi beaucoup avec les assurances, les experts en sinistre.
Oui.
Vous avez même des partenaires inspecteurs qui recommandent votre entreprise.
Ben, c'est ça. Comme je disais tantôt, on a réussi, on a fidélisé au fil des années, que ce soit des compagnies, des experts en sinistre, en assurance. On est beaucoup mandaté pour les assureurs. Souvent, quand il y a des sinistres, des infiltrations d'eau ou des problèmes de toiture, on est mandaté, dans le fond, pour se déplacer, faire des expertises. Après ça, on fournit un rapport. Souvent, on va faire une soumission aussi pour réparer. Que ce soit des inspecteurs en bâtiment. Les inspecteurs en bâtiment, il y en a beaucoup qui se réfèrent à nous pour quand c'est un petit peu plus là, spécifique là, au niveau de la toiture. Des fois, ils ont des questionnements de savoir de où est-ce que ça peut provenir l'infiltration d'eau ou si ça a été fait là, selon les règles de l'art. Ensuite de ça, que ce soit des gestionnaires d'immeubles, qui gèrent plusieurs immeubles, ils nous appellent pour les inspections ou bien les réfections de toiture. Et au départ, quand ils appellent chez nous une fois puis qu'ils travaillent avec nous autres, souvent, il y a des bonnes chances qu'ils nous rappellent parce que le service est là. La rapidité aussi, là, on est efficace. Là.
Ouais.
Même juste cette semaine, il y a eu des forts vents. C'est, avant hier, il y a eu des forts vents. Et on a dû recevoir peut-être 25-30 appels là, des compagnies d'assurance. C'est tout de suite, on s'est reviré de bord, on était capable de répondre à tout le monde. On est allé sécuriser les toits en urgence. On a mis toutes les équipes là-dessus. Puis,
C'est vraiment le fun. Puis quand on devient une référence aussi pour les experts en sinistre, les compagnies d'assurance, etc., ça prouve qu'on fait une bonne job. Puis tellement qu'on fait une bonne job, on est obligé d'aller en pause. On revient tout de suite après.
CJMD, l'alternative. Besoin d'une job? Changement de carrière? Tu aimerais évaluer tes options? La 23e édition de la Foire de l'emploi Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches, présentée par la Chambre de commerce de Lévis et la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, se déroulera 100% en présentiel les 6 et 7 mai prochains à Exposité. Étudiants, gens de métier, professionnels, peu importe ton expérience, tu auras l'embarras du choix. 150 exposants dans plus de 25 secteurs d'activité offriront plus de 5000 postes. Viens faire de nouvelles rencontres et établir en lien direct avec de futurs employeurs en visitant la Foire de l'emploi. Événement gratuit et accessible à tous. Plus de détails au foireemploi.com.
On est de retour à la bulle immobilière avec Kevin Filion de Plan de match Renault. Vous avez des besoins en analyse, optimisation de projet immobilier. On contacte Kevin au
418-456-7717.
Parfait, mais surtout si vous avez des besoins immobiliers pour la vente ou l'achat d'une propriété, vous pouvez contacter notre équipe, équipe Jean-François Morin, sur notre cellulaire ou notre numéro de bureau, le 418-801-8011. Mais aujourd'hui, on veut avoir des informations sur les toitures. Puis une des choses qu'on parlait, Jean-Michaël, c'est l'importance de faire des inspections annuelles sur nos propriétés. Mais moi, qu'est-ce que je me questionne? C'est à quel moment qu'on fait des inspections sur notre toiture? On les fait pas l'hiver, ça c'est sûr, mais à quel autre moment qu'on devrait faire un spot check sur nos toitures?
Ben, c'est ça, les toitures, les inspections, dans le fond, ça doit être fait justement avant l'hiver. Puis aussi que si jamais, exemple, il y a des travaux à faire, d'avoir le temps d'appeler un couvreur justement pour qu'il puisse les réaliser avant que la neige tombe. La toiture, c'est ce qui vous permet aussi de protéger votre investissement, un peu comme les fondations, hein, ça prend une maison solide. C'est sûr que de mettre de l'argent sur une toiture, c'est pas agréable parce que tu n'en profites pas, mais ça permet justement
de protéger du reste ben, c'est de ça. Ce que tu profites dans la maison.
Ben oui, parce que tu sais, dormir avec une toiture qui coule dans la chambre à coucher, là, c'est toujours déplaisant. Puis une des choses qui est importante aussi, c'est de choisir des bons produits. Puis là, tu sais, il y a toutes sortes de produits qui se mettent sur le marché. On a du bardeau traditionnel trois pattes, là, tu sais, qu'on voit, là, ouais, que, ouais. Tu sais, ça tangue à s'essouffler, là, tu sais, on en voit de moins en moins. Par contre, c'est une nécessité encore parce qu'il va y avoir un projet de rénovation, puis on va vouloir faire matcher le bardeau avec l'ancien bardeau, fait qu'on va reprendre ce bardeau-là. On a du bardeau architectural aussi, on a du 25, 30, 35, 50 ans. Comment qu'on peut faire une bonne sélection de bardeaux? Parce que, tu sais, ça veut pas dire nécessairement, parce qu'on prend un 50 ans, que c'est le meilleur.
Non.
De par la compagnie, de par l'installateur, de par un paquet d'affaires, là.
Oui, ben c'est ça. Dans le fond, le bardeau, comme tu disais, le trois-pattes, c'est très rare qu'on va l'installer. Souvent, on va l'installer soit la personne elle va construire une annexe à la maison pour jumeler les deux toitures ensemble pour pas qu'il y ait de différence entre les deux. Mais 99% du temps, on va installer un bardeau architectural. C'est sûr qu'il y a différentes compagnies au niveau des produits, mais tu as des compagnies qui réussissent quand même à se distinguer des autres, là, que ce soit au niveau des... pas à se distinguer, mais à se dépasser, à se démarquer au niveau des autres, que ce soit au niveau des garanties, que ce soit au niveau de la qualité, que ce soit les membranes, que ce soit au niveau de la granule, la bande de clouage. C'est vraiment de s'assurer d'avoir... que le bardeau choisi, dans le fond, que le fabricant, avec la garantie, elle soit applicable. Mais pour qu'elle soit applicable, c'est ça qui est important souvent. Puis les clients, eux autres, ben, ils portent pas ou ils savent pas quand ils reçoivent les estimations. C'est que pour avoir droit aux garanties des fabricants, exemple 50 ans, parce qu'à cette heure, tu es rendu, tu as des garanties 50 ans, mais sans poids auto. Ça veut dire qu'exemple, je fais la toiture chez vous, je respecte toutes les normes du fabricant. Le fabricant va te donner une garantie 50 ans sans poids auto, puis le client reçoit son certificat de garantie également.
Mais transférable aux prochains acheteurs.
Transférable, ouais. Si jamais, exemple, vous vendez à la maison. Mais ce que le client ne sait pas, c'est qu'il faut que toutes les normes du fabricant soient respectées. Ça veut dire que ça prend des membranes au point de pénétration, il faut s'assurer que les membranes sont installées correctement. Chaque solin, chaque accessoire, ben, ça prend sa membrane en dessous.
C'est souvent la même gamme de produits, c'est-à-dire que tu peux pas mélanger.
C'est ça, ça prend tous les produits de la même marque.
Ouais.
Souvent, des fois, il y en a qui peuvent peut-être mélanger les membranes vu qu'une membrane, exemple, d'un certain produit coûte moins cher que le produit en question. Puis souvent, le client il ne le verra pas. Puis personne ne va s'en rendre compte. C'est juste que le jour où est-ce qu'il y a un problème, si jamais il adviendrait qu'il y a un problème, ben là, le fabricant, lui, il va se déplacer sur place. Puis ici à se déplacer, ça ne tentera pas, lui, de repayer une toiture au complet, vu qu'il n'y a pas de pourcentage de dépréciation.
Une chose qui est importante au niveau des garanties et des fabricants, on va se le dire aussi, là, leur objectif est d'honorer leurs garanties, oui, mais de ne pas nécessairement payer. Exactement. Dans le sens que eux autres, ils ont leur équipe d'inspection du fabricant qui va aller directement sur place. Puis ils vont aller voir les points névralgiques, là, le de bord de toit, ils vont checker les soleils, ils vont checker l'installation.
La méthode d'installation, puis, c'est ça, c'est ce qui est important aussi. On a discuté, excuse-moi, je ne voulais pas te couper, mais la méthode d'installation, tu sais, tu as deux méthodes. Tu as des méthodes rapides qui, dans le fond, c'est comme un peu si on montrait une échelle. Là, on part d'en bas, puis chaque couvreur, ils ont leur ligne, puis ils s'en vont en haut jusqu'à la faîtière. Puis après ça, ben, tu as une méthode qui est plus longue en escalier, mais en... Au niveau du temps d'installation, c'est pas le même temps. T'sais. Moi, j'ai des compétiteurs qui peuvent faire une toiture, ça va leur prendre une journée, mais que moi, avec le même nombre de personnes sur le toit, ça va me prendre deux jours parce que mes méthodes sont pas les mêmes.
Ouais. Parce que les méthodes vont être plus minutieuses aussi pour honorer les normes du fabricant. Puis tu sais, les normes du fabricant vont aussi sur le nombre de clous par feuille. Fait que, si le fabricant dit qu'il y a 5 clous par feuille, puis dans leur endroits qui vont inspecter que 4 clous par feuille, ils vont dire malheureusement, ça n'a pas été installé. Puis nous, à titre de consommateur, on n'est pas en mesure de faire ces vérifications-là parce que on n'est pas sur le toit, on ne connaît pas les normes du fabricant. De quelle façon on peut rassurer, par exemple, monsieur, madame, tout le monde, qui aurait un intérêt à savoir si l'entrepreneur respecte ou non les normes du fabricant?
Ben, nous autres, la façon qu'on le vit, c'est quand on se présente chez le client en estimation, souvent, où ce qu'on le voit, c'est... Tu sais, on vient qu'à connaître nos compétiteurs, mais tu peux pas parler du compétiteur que tu sais que lui, il respecte pas ou qu'il travaille pas conformément. Tu peux pas le dire en estimation. Mais souvent, on le voit sur le prix en bas. Fait que nous autres, notre job, lorsqu'on évalue la maison et qu'on explique au client notre proposition, c'est vraiment de lui faire part de tous ces aspects-là, de tous ces points-là, puis de dire que des fois, mais le 3-4 000 de différence en bas, mais souvent, il y a des raisons à cet écart-là.
Il y a une valeur.
Oui, il y a une valeur. Il y a une valeur ajoutée. Puis nous, la seule chose qu'on mentionne aux clients, ben, c'est vraiment de se faire comprendre que nous, toutes les méthodes vont être appliquées. Ça veut dire que si jamais, exemple, quand que ça va bien, mais c'est lorsqu'il y a un problème. Ben oui. Puis lui, mais c'est de le rassurer que si jamais il y a un problème ou si jamais il vend sa maison, il y a une inspection ou quoi que ce soit, mais tu sais, il peut être rassuré que la toiture va être installée vraiment selon les normes du fabricant, puis comment qu'ils disent que ça soit installé, les membranes, la façon de monter le bardeau, tu sais, tout.
Puis tu sais, il y a deux types de clients aussi. Tu as le bébé boomer que tant qu'à le faire, on va le faire comme faut. C'est quoi ta meilleure qualité? C'est qui le meilleur installateur? On est prêt à payer, puis ils vont le prendre. T'sais, on a le bébé boomer qui est beaucoup comme ça. Là.
Mais il y en a beaucoup plus qui sont prêts à payer pour la qualité que de juste
acheter un prix.
Oui. Je pense que la plupart des gens aussi vont partir avec une idée de premier réflexe naturel, là, reptilien, on va dire, c'est de payer le meilleur ratio qualité-prix. Mais après ça, quand tu expliques, comme je dis, la valeur, puis ce que tu fais, pas ce que l'autre fait de moins, mais ce que toi, tu fais de plus, qui fait que le 3-4 000 qui paye, ça se peut qu'un jour, ça lui fasse économiser 10-15 000. Mais c'est juste que ce jour-là, c'est loin. Fait qu'il faut qu'il se projette, faut qu'il pense. Puis c'est un peu ta job de c'est un peu de l'éducation, dans le fond.
Oui, puis définitivement, puis tu vas toujours aussi avoir le consommateur qui, lui, va vouloir acheter la toiture parce que ça coule, ça presse, puis que lui, de toute façon, il se sépare. Puis dans 5 ans, il se sépare, puis tu sais, il va vendre. Fait que, tu sais...
C'est un client.
Ben oui, ben tu sais, on en voit souvent de ça, mais dans le fond, ce qu'il faut que tu fasses comprendre à ce type de client-là, c'est que après ça, même s'il vend puis la maison, mais c'est que lui, après ça, il peut être reconnu responsable des travaux qu'il a fait faire chez lui. Puis ça, on le voit souvent, tu sais, des gens, « Ah, moi, je vais mettre le minimum, c'est pour vendre. » Ou « On se mettra pas aux normes. » Parce que nous autres, notre job aussi, c'est quand on arrive en évaluation chez un client, mais c'est pas juste poser du bardeau et refaire une toiture étanche. C'est aussi de s'assurer que la toiture, mais l'entretoit, la ventilation, l'isolation respectent les normes. T'as comme deux types de couvreurs. T'as des couvreurs poseurs de bardeaux, mais t'as aussi des couvreurs que... Tu sais, être couvreur, c'est pas juste poser du bardeau, c'est aller plus loin que ça, c'est s'assurer que l'isolation soit conforme, que les conduits de hotte de cuisine, ben, qu'ils soient bien isolés, qu'il n'y ait pas de fuite, s'assurer que les trappes d'accès soient bien étanches, s'assurer que les entrées d'air soient
bouchées,
s'assurer que les entrées d'air soient conformes, que...
C'est toute la mécanique.
Ben, la mécanique
de l'entretoit.
C'est ça. Puis nous autres, ben on s'est formés, on est allé suivre des formations justement pour ça. Puis en travaillant avec des experts indépendants, ben ça nous a, tu sais, on l'a appris aussi. On a appris sur le tas aussi avec les hivers qu'on a, tu sais, des modifications, parce qu'il a fallu aussi s'ajuster sur les méthodes, tu sais.
Ouais, et puis tu sais, on a les intempéries, on a la neige, ouais, on a la glace.
On les a toutes.
Tu sais, on les a toutes. Puis à tous les niveaux, là, tu sais, on a le plus simple, on a le moins 1000 aussi. Là, fait que, il faut faire attention avec tout ça. Au niveau de la qualité du bardeau, ça a évolué aussi. Il y a eu une certaine époque, là, je pense que c'était en 2000-2010, qu'il y a eu...
C'est ça. De 2000 à 2010, les fabricants avaient pris comme un tournant environnemental. Ils voulaient, pour l'environnement, ils ont fait des bardeaux qui étaient organiques. Mais c'était
ça pourrait résumer.
Ça l'a amené vraiment des gros problèmes. C'est que le bardeau, les versants qui sont exposés au soleil, le bardeau cuit.
Ouais.
Le bardeau il cuit. Mettons, tu peux avoir trois versants sur la toiture qui sont très beaux, puis lui qui est au soleil, il est tout frisé.
Il frise
au complet. Ça fait que les bardeaux ont une durée de vie de 10-15 ans.
Puis, tu sais, généralement, on a des toitures qui devraient durer... Généralement, on entend souvent 25-30 ans.
Au minimum.
Puis, tu sais, mais souvent, tu sais, à partir de 15 ans, on doit commencer à avoir un œil beaucoup plus serré sur l'usure de notre toiture, parce que des fois, de par le vent, de par la localisation, de par le soleil, de par l'exposition à un paquet de facteurs, peut faire en sorte que la toiture, même si elle garantit 25 ans, elle peut s'user prématurément quand même.
Oui.
Fait que, tu sais, ça, c'est quand même important. À partir de 15 ans, généralement, moi, je dis toujours à mes clients, tu sais, commencer à avoir un œil régulier sur la toiture, puis là, de vous assurer d'aller là. Tu sais, généralement, la première année, ça devrait bien aller, mais plus qu'on s'en va dans le temps...
Ben même qu'il y a des compagnies d'assurance, on a vu ça souvent, des clients qui ont appelé que leur compagnie d'assurance, après 20 ans, n'assurait plus les toitures. Dans le fond, nous autres, ce qu'on fait, ça arrive des fois que l'assureur ne veut plus l'assurer parce qu'elle a 20 ans passé, mais qui est encore très belle. Nous autres, on fait un mini-rapport comme quoi que la toiture est encore bonne pour au moins au minimum 2 ans, puis qu'on s'assure, on a fait une inspection, on a fait un colmatage là, à certains endroits là, juste pour s'assurer. Puis souvent, ben, les gens sont capables de fournir ce rapport-là à leur assureur aussi. Ouais, puis ils sont capables.
La SCHL aussi qui l'exige parfois. Moi, ça m'est arrivé sur un immeuble multilogement, puis chez moi aussi, où ils demandent, de par ce qu'ils voient, soit par image satellite, image radar ou Google, dire bon, ben, on voit qu'il y a des poches d'eau sur ta toiture, sur ton toit plat. Il faudrait que tu fasses inspecter, que tu me confirmes que tu as encore la garantie suprême, puis qu'il y a un maître couvreur qui passe, qui nous confirme ça. Autrement, on va t'exiger de la changer. Pour que l'assurance SCHL soit en forte. Hein.
Mais c'est ça, mais les produits ont aussi changé. T'sais, c'est sûr que les assureurs vont falloir aussi qu'ils s'ajustent à ça, parce que les produits, c'est quand même, ils ont quand même été prouvés. Ils ont fait des tests en usine que le bardeau, pour qu'il donne une garantie de 50 ans, sans dépréciation, ça veut dire que le bardeau, il a quand même fait ses preuves. Là, ouais. C'est sûr.
Puis de quelle façon, par exemple, puis là, on sort du sujet peut-être un peu, là, mais moi, j'achète une propriété, malheureusement, la personne est décédée, il avait mis une toiture 50 ans, la succession, on peut trouver les papiers de la toiture, etc. Puis là, moi, j'achète une maison, j'ai une idée que le bardeau peut être du bardeau de 50 ans, mais de quelle façon qu'on peut le savoir ou le faire par rapport à tout ça?
Ben là, si jamais, exemple, ça arriverait, malheureusement, le client perd sa garantie sans Porota. Là, il va avoir une dépréciation là, qui va... ça va être la toiture va rester garantie 50 ans, mais il va avoir une dépréciation. Mais encore là, il va falloir savoir c'est qui le fabricant, c'est quel produit qui a été installé. Ça va prendre sûrement la facture là, aussi là, d'origine. Là.
OK, parfait. Mais
ça, vous êtes capable peut-être... Dans ça, ce ne sera pas un inspecteur, par exemple, dans ta question. Ce n'est pas l'inspecteur qui va vous dire hey, c'est un bardeau BP ou gaz.
C'est vraiment la facture. Ça va prendre la facture, c'est ça.
Et tu sais, en même temps, il n'y a pas tant d'informations sur une planche de bardeau. Là,
non, t'as pas.
Il n'y a pas le numéro de série, puis il n'y a pas la badge de fabrication.
Des fois, tu l'as à l'arrière du bardeau, mais fois, avec le temps, c'est
avec
dur
le temps, puis oui, puis avec le clou, avec la colle, avec le pitch, avec plein des affaires, ça se peut que le morceau qui avait bonnes informations qui a été collé.
Il y a des bonnes chances.
Puis par la suite, on a les membranes et l'astomère. Puis une des choses, moi, qui me jetait à terre, c'est comment ça coûte cher faire de l'installation de membrane élastomère. T'sais, on pense toujours à c'est des membranes soudées, il n'y a pas de problème avec ça, etc. Mais Christy, c'est un gros fardeau et une grosse responsabilité pour un couvreur. Là.
Oui, la membrane élastomère, ça, c'est vraiment une autre catégorie. Quand tu fais de la membrane élastomère, ben là, c'est vraiment de s'assurer d'avoir des employés minutieux parce que tu joues avec le feu. Hein, les joints, dans le fond, la membrane est soudée au chalumeau. Mais le coût des assurances, il y a eu quand même plusieurs sinistres là, dans les années passées. Ça a fait en sorte que les assurances ont monté en flèche. Nous autres, juste être assuré en responsabilité civile, c'est 200 000 que ça coûte annuellement. Au début, dans la première année, quand on a parti DBL, ça coûtait, je pense, c'était 15-20 000 de mémoire. On trouvait ça cher. Aujourd'hui, c'est 200
000. Ça suit le volume.
C'est ça, il y a ça. Ça fait en sorte que ben là, c'est sûr que toi, tes prix de soumission, il faut que tu t'ajustes. Puis quand tu arrives chez monsieur, madame, tout le monde, que ce soit un duplex ou un immeuble qui habite, propriétaire occupant, souvent, tu sais, eux autres, quand ils voient le prix de l'estimé, c'est sûr qu'ils trouvent ça élevé, mais tu sais, il faut justifier justement ce prix-là.
Puis tu sais, la problématique qu'on va vivre souvent avec des poseurs de membranes élastomères, c'est qu'ils n'auront pas les qualifications requises puis les certifications requises. Parce que, tu sais, on va se le dire, il y en a combien de couvreurs qui n'ont pas les protections, qui n'ont pas les garanties, qui n'ont pas les assurances pour faire ça. Fait que là, tu sais, tu rivalises contre quelqu'un qui n'a pas... certification-là, mais d'un autre côté, toi, à titre de consommateur, tu n'es pas nécessairement au courant.
Non.
Puis d'un autre côté, à titre de consommateur, ça se peut que tu gambles ton 400-500 000 de la valeur de ta propriété dans les mains d'un entrepreneur qui, lui, n'est pas assuré appropriément. Là.
C'est ça, c'est de faire attention parce qu'un entrepreneur peut avoir une assurance responsabilité puis en présentation, lors de l'évaluation, vous montrez son certificat d'assurance responsabilité. Mais ça ne veut pas dire que l'assurance responsabilité pour le feu. C'était vraiment important que ce point-là soit indiqué sur la police d'assurance. Parce que la prime minimum, d'après moi, tu n'as pas d'assurance. Moi, mon assureur, là, on s'est informé cette année parce qu'on a quand même négocié, essayé d'avoir des prix compétitifs. Il disait que les primes minimum, c'était 100 000. Ça veut dire que, mettons, une petite entreprise où ce il fait quelques membranes soudées, il n'aura pas les moyens de payer 100 000. Là, c'est ça.
Il va prendre le contrat sur le fly pareil, puis il va l'assumer son risque.
On le voit, ça on le voit. On le voit quand même fréquemment qu'on demande aux clients de justement faire leur devoir d'aller s'assurer que tous les papiers soient conformes aux travaux qui ont à être faits. Puis ça arrive que le client nous rappelle effectivement ton compétiteur, il n'avait pas l'assurance pour le feu. Mais il l'installe quand même.
Tu vas avoir besoin de ta soumission de rénovation.
Oui, parce que c'est ça. Si jamais il met le feu, le client, lui, d'après moi, il perd tout.
Ben oui. Puis tu sais.
Pas qualifié.
Exact. Puis après ça, c'est tous les recours légaux, etc. Puis l'entrepreneur, s'il n'y a pas 100 000 pour payer son assurance, il n'y aura pas les reins solides pour payer les travaux non plus. Fait que ça vient tout avec. Puis tu sais, au niveau des membranes à l'estomère, on a souvent l'idée que ça va être des produits de meilleure qualité qui vont durer plus longtemps, du 30, 50 ans, etc. Mais il y a aussi une qualité de produit, mais il y a aussi une qualité d'installation. Parce que, tu sais, on en voit qui vont installer de la rip pressée, autant sur le bardeau que sur de la membrane élastomère. Puis ça ne doit pas être bon, ça, comme matériel pour de la toiture. Là.
Non, c'est ça. C'est ce qu'on voit souvent, c'est vraiment de comparer... Les produits, s'assurer que les produits soient similaires. Tu sais, souvent, exemple, on fait un doublement de pontage de bois. C'est installer un contreplaqué, un panneau 4x8 par-dessus une vieille planche existante, parce qu'autrefois, ils prenaient les planches de coffrage, ils mettaient ça sur le toit. Puis au fil des années, cette planche-là, elle s'est asséchée, puis elle travaille, elle gonfle, elle sur place, elle prend de l'expansion, elle fissure. Puis souvent, qu'est-ce que ça va avoir? Mettons, comme exemple, sur les membranes, c'est si jamais on installe sur cette planche-là, le fait de travailler comme ça, chaud-froid, avec les écarts de température, ça fait que les clous peuvent sortir puis percer les membranes. Fait qu'on va suggérer de mettre un panneau de support, qui est un panneau de 4x8, mais... Il y a des gens, il y a des compétiteurs, eux autres, pour économiser, ils vont mettre un panneau de OSB, qui est de la rip pressée. C'est sûr que c'est vraiment pas ce qui est le mieux à installer, surtout sur un toit plat. Même un toit en pente, c'est pas l'idéal. Hein? Un panneau de répressé ou sous qu'il y a un peu d'humidité, qu'il y a de l'eau.
Ça travaille ça pas mal plus. Puis, tu sais, en fait, c'est des copeaux de bois avec la colle. Tu sais, puis il y a souvent plus de colle que de bois. Ça, c'est mon avis à moi. Je veux pas te mettre dans l'eau chaude avec ça. Puis, il arrive des nouvelles membranes, des nouveaux produits aussi. On avait des membranes élastomères. On a comme son jumeau qui est un revêtement de bitume et gravier. Fait que c'est un peu le même genre de concept, mais là, au lieu de souder une membrane, on vient mettre un genre de pitch là, à pleine grandeur.
Avec un gravier, mais nous, on n'en fait pas. Mais à Québec, à Montréal, on le voit beaucoup, ça, mais nous, on n'en fait pas. C'est le contraire. Les toitures en asphalte et gravier qui étaient faites autrefois, souvent, on va arracher complètement, puis on va repartir en neuf, puis on va mettre un nouveau panneau de support avec nos membranes. Mais il y a aussi une autre façon qu'on peut faire qui est aussi acceptée là, par Soprema au niveau des garanties. Mais encore là, il faut vraiment s'assurer que l'isolation soit quand même belle, puis la ventilation, que tout soit conforme. C'est qu'on met un panneau SopraSmart, qui est un panneau de support qui a sa sous-couche intégrée, qu'on vient fixer mécaniquement par-dessus l'asphalte et gravier. Puis ensuite, on peut souder notre membrane directement par-dessus ça.
Okay.
Il y a quand même des bonnes économies à faire. Parce que tu t'arraches
sans
pas.
Défaire,
ouais,
sans défaire.
Parce que défaire, ça doit être un méchant beau bordel. Ben, là.
Surtout asphalte et gravier.
Oui, moi, ben c'est ça. Oui, ça fait quand tu as terminé ta journée, les gars là, sont
non, parce que tu sais, tu peux pas couper ça à chainsaw. Tu sais, les roches vont tout arracher.
On le coupe. Dans le fond, on le coupe soit avec la hache, la chainsaw. On a des façons de faire là, à bêche, les gars, t'sais, mais c'est ça. Ils sont noirs, noirs, noirs.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment. On a des produits aussi, des nouvelles membranes TPO, qui sont des nouveaux produits, souvent des membranes blanches. On a des toits de tôle aussi. Oui. Les toits de tôle, on a différents types. On a des toits à baguette, des toits canadiennes, là, que ça, c'est comme des losanges, je pense.
Oui, des losanges.
Puis après ça, tu sais, il y a d'autres produits où est-ce qu'on va avoir du toit permanent qui peuvent être en aluminium, en tôle. Oui. Puis tu sais, à garantie égale, à produit égal pour monsieur, madame, tout le monde, tu sais, c'est sûr qu'ils vont toujours aller vers un produit qui va coûter toujours le moins cher possible, qui va avoir la plus longue durée de vie. Puis, tu sais, il y a des obligations dans des secteurs patrimoniaux. Est-ce qu'ils vont exiger d'avoir des revêtements en tôle ou des revêtements canadiennes? Est-ce que ça existe encore, des programmes de subvention pour des toits comme ça?
Oui, ben c'est souvent c'est dans les secteurs patrimoniaux. Ils vont l'exiger, mais le client, lui, il peut faire une demande pour avoir une subvention. Fait que souvent, la subvention, elle va être capable de couvrir 50% des frais. Des coûts. Mais les toitures ancestrales, c'est sûr que c'est pas le même prix qu'une toiture en bardeau. Le coût, souvent, c'est 4, 5, 6, 7 fois le prix, dépendamment des types de maisons. Fait que c'est sûr que les coûts sont quand même très élevés, sauf que c'est sûr que tu ne referas pas la toiture dans 25, 30 ans. Là. Après ça, tu ne retouches plus à ça. C'est bon 100 ans, même plus. Là. Là, on voit des toitures dans le Vieux-Québec qui ont plus de 100 ans et qui sont encore là.
Puis, tu sais, quand même important, c'est un gros investissement. Puis, tu sais, souvent, oui, il y a les secteurs patrimoniaux qui vont exiger ça. Il y a le bébé boomer un peu puriste qui va vouloir avoir un produit garanti à vie.
Tu parlais des toits permanents. Tu sais, les bardeaux permanents, on en voit de plus en plus depuis 5-6 ans. Là, le bardeau effet métallique, si on veut, qui ressemble au...
Ben nous autres, on en installe, mais l'avantage que... Dans le fond, quand on rentre en estimé, puis le client, exemple, il veut un toit permanent... C'est que nous autres, on va être capable de dire vraiment au client les points positifs du toit permanent versus le bardeau d'asphalte. Puis mais les entreprises qui font seulement du toit permanent, mais c'est sûr qu'eux autres, ils vont chercher à rabaisser le bardeau d'asphalte. En voulant dire, vous allez refaire votre toiture dans 10 ans, dans 15 ans, parce que présentement, avec tout ce qui a été fait en 2000, mais c'est ça, les toitures, elles durent en 10-15 ans.
Ouais.
Ils réussissent à faire peur aux gens avec ça, mais c'est sûr que c'est plus ça aujourd'hui.
Il y a peut-être aussi des maisons qui sont plus appropriées à ça aussi, là, tu sais, dans le sens que le pontage va faire en sorte qu'un toit permanent, on le sait que de par la structure, tu sais, de la maison, ça va être approprié à cette propriété-là, au même titre qu'on peut avoir une propriété où ce que c'est ancestral, que l'isolation n'est pas bonne, on ne pourra jamais améliorer l'isolation qui va faire en sorte qu'un type de produit, même si c'est un produit garanti à vie, ça se peut que ce ne soit pas le bon produit, qu'on est mieux des fois de payer peut-être un peu moins cher puis de le changer pour s'assurer de toujours avoir une meilleure protection que de payer la totale, que finalement, ça ne convienne pas.
Oui, puis le toit, ben c'est ça, comme tu dis, c'est certain de vraiment y aller avec les besoins. C'est comme le toit permanent, moi, personnellement, je refais mon toit. Là, même les gars sont après le faire aujourd'hui. Puis j'aurais pu mettre un toit permanent, mais je ne le mets pas parce que j'ai confiance aux produits, aux bardeaux que j'installe. Mais le toit permanent, souvent, on va attendre, ah, ben c'est le fun, la neige, elle glisse. Pas besoin de déneiger ma toiture en hiver. Mais oui, c'est certain à 100% que la neige va glisser, mais elle va glisser.
Dans tes
gouttières. Il va avoir 2 pouces, 3 pouces, il va avoir 12 ouais. pouces dessus. Tu sais, ça va-tu faire des dommages en bas? Ça va-tu briser les gouttières? Il y a beaucoup de choses à tenir compte. Mais souvent, ce que je vais conseiller aux clients qui veulent, exemple, un toit permanent, c'est que ça va donner un plus-value à la maison. Au niveau, mettons, si jamais, exemple, vous voulez vendre la maison, ben, si on prend une maison similaire avec une toiture en bardeaux, ben, c'est sûr que votre maison va être avantagée à celle en bardeaux parce qu'on n'aura probablement pas à retoucher au toit.
Ah oui, on devient vraiment
c'est vendeur. C'est une
belle valeur.
Il faut aimer l'esthétique aussi que ça donne. On s'entend que c'est pas tout à fait le même look non plus. Ça. Fait que outre l'investissement, il faut aimer ça, le visuel que ça donne sur la maison.
Exact.
Ça donne un look un peu prestigieux aussi, si on veut. Hein. Ou si on sait que les enfants, mettons, on a des enfants, puis on sait que la maison ben, va leur appartenir un jour, mais ça va leur permettre justement de ne pas se casser la tête avec le toit éventuellement.
Une question qui me vient, là, mais au niveau sonore, est-ce que tu entends plus justement dans une. Est-ce que maintenant tu vas entendre la pluie comme dans un chalet ou ça? Non, tu l'entends pas du tout, c'est bien isolé.
On l'entend pas. Ben, ça dépend des types de toitures, mais c'est que dans le fond, est cloué, le pontage, il y a le pontage de bois qui est là. Fait que tu sais, il n'y a pas de vide là, amorti, entre les deux, ça amortit. Fait que nous, on l'entend pas.
Puis au niveau des plus, mettons pour investisseurs. Pour le plex ou le multilogement, tout ça, tu dirais-tu que c'est justement la membrane élastomère la plupart du temps que vous allez suggérer en termes de, on va dire, entrée de gamme pour un toit plat, mais qui est un très bon produit puis qui peut faire pour 20 à 30 ans?
Oui, puis même que je dirais, tu sais, tantôt on discutait d'installer par-dessus l'asphalte et gravier, que c'était possible d'installer un panneau de support puis de s'en arracher, mais idéalement, c'est sûr, c'est tout le temps de revenir à la base, de refaire ça correctement, puis de tout arracher, on repart en neuf. Puis ce qui va être le fun avec cette méthode-là, c'est que dans 25-30 ans, mis que la toiture soit refaite, tu n'auras pas besoin de tout réarracher. Tu auras juste à appliquer une colle directement par-dessus ta membrane qui a été installée. Puis après ça, tu vas pouvoir souder directement par-dessus. Puis tu vas être capable de ravoir une garantie là, par ce prémo.
OK. Fait que c'est ça qu'il faut regarder un peu comme investisseur, à savoir, mettons, outre le prix, si on fait venir 3 couvreurs pour faire notre toit plat en élastomère, on regarde un peu c'est quoi les produits.
Assurance, norme du fabricant. Puis, tu sais, est-ce que tu es capable de répondre aux normes du fabricant?
Puis, s'il y a les accréditations, comme nous autres, les gars sont tous accrédités PAC plus S, qu'appelle. C'est une formation qui a été faite chez Sopremo. Ils ont leur carte de compétences. S'assurer aussi de voir que les employés, que l'entreprise est qualifiée là, pour les accréditations chez Sopremo.
On s'entend que la plupart des troubles. Des défectuosités, c'est pas nécessairement le produit, c'est le montage.
C'est la façon, c'est l'application.
C'est la main-d'œuvre, exactement.
Vous êtes à l'écoute de CJMD 96.9, l'alternative radio. La bulle immobilière est diffusée tous les samedis 11h à midi. Vous avez manqué l'émission? Pas de problème. Écoutez-nous sur nos podcasts disponibles sur Spotify, Apple Podcasts et Balados.
Besoin d'une job? Changement de carrière? Tu aimerais évaluer tes options? La 23e édition de la Foire de l'emploi Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches, présentée par la Chambre de commerce de Lévis et la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, se déroulera 100% en présentiel les 6 et 7 mai prochains à Expocité. Étudiants, gens de métier, professionnels, peu importe ton expérience, tu auras l'embarras du choix. 150 exposants dans plus de 25 secteurs d'activité offriront plus de 5000 postes. Viens faire de nouvelles rencontres et établir un lien direct avec de futurs employeurs en visitant la Foire de l'emploi. Événement gratuit et accessible à tous. Plus de détails au foireemploi.com. La seule station hip-hop au Québec.
Vous êtes à l'écoute de La Bulle immobilière avec Jean-François Morin et Kevin Filion. On parle de toiture, on démystifie l'ensemble des toitures, que ce soit les produits, que ce soit les méthodes d'installation. Mais une chose qui est importante à savoir, c'est les soumissions qu'on fait, les garanties qu'on peut avoir. C'est tout qu'un monde. T'sais, oui, on a des installateurs, on a des gens qui sont performants, mais t'sais, souvent, à titre de consommateur, on ne sait pas quel bon choix faire parce qu'on va avoir plusieurs soumissions de 3 entrepreneurs différents parce qu'on a fait nos devoirs, puis on va en avoir un à 14, un à 16, puis un à 17. Puis là, tu vas dire, Kim, comment ça se fait que celui-là de 17 il est 3 000$ plus cher? Comment ça se... Puis tu sais, finalement, c'est peut-être pas le même produit. Finalement, c'est peut-être pas les mêmes méthodes d'installation. Finalement, il y en a peut-être un qui coupe la soumission pour rajouter des extras de 3 000$ dessus parce que ça l'arrive aussi. Ouais. De quelle façon qu'on peut outiller, par exemple, nos auditeurs à peut-être avoir un œil un peu plus critique sur la façon de procéder pour avoir des bonnes soumissions puis de comparer des bonnes, les bons éléments?
Ben, la première étape, lorsque tu appelles un entrepreneur, ben, d'un, peut-être demander autour de vous si vous avez des références. S'ils ont eu des bons contacts avec des entrepreneurs ou qui ont fait des travaux chez eux, demandez autour de vous. Si jamais, exemple, il y en a un ou qui n'en ont pas à vous référer, mais là, c'est de s'assurer que lorsque vous choisissez votre entrepreneur, ben, s'assurer peut-être aller voir chez CA Habitation ou peut-être regarder les avis Google sur Facebook, les avis Facebook. Puis quand il vient chez vous, ben aussi de vous assurer qu'il y ait tous les permis nécessaires, que ce soit la régie du bâtiment, l'OPC. Souvent, le permis à l'OPC, c'est l'Office de la protection du consommateur. Les gens, ils pensent que c'est le permis de vendeur itinérant, c'est pour ceux-là qui arrivent, qui cognent aux portes aléatoirement.
C'est ça,
c'est faux. C'est, dans le fond, c'est toute personne qui représente une entreprise à domicile chez le client et dans l'obligation d'avoir le permis à l'OPC. À l'OPC, vous êtes capable de voir aussi si l'entreprise a obtenu des plaintes dans les années passées. La régie du bâtiment aussi, là, de s'assurer que l'entreprise est en règle. Ensuite de ça, ben, un coup que ces devoirs-là sont faits, ben là, c'est de voir de quelle façon, de quelle approche qu'il s'y prend. Est-ce qu'il vous demande d'aller voir l'entretoit? Il vous parle-tu de l'isolation? Il vous parle-tu de ventilation? Ou il vous parle seulement de la toiture? Parce qu'on voit ça souvent aussi, des gens que, tu sais, on connaît quand même les maisons. Là, on sait que quand on arrive d'une maison des années 50, 60, ben, il y a des fortes chances que la toiture soit en planche puis qu'il faut mettre un support par-dessus la planche existante, un support de contreplaqué. Mais souvent, nous autres, on va arriver, on va en discuter de ce point-là, de cet aspect-là avec les clients. Mais il y a des compétiteurs qui n'en parleront pas, vont faire un prix un petit peu plus bas. Puis les clients, ben, souvent, ils ne regardent pas vraiment les détails de la soumission. Et
on s'entend que cet extra-là, comme bien des extras, ce qui est tannant, c'est que ça se passe le matin, qu'ils enlèvent le bardeau, que tu veux que ça soit fini à la fin de la journée, tu es à job. Il t'appelle puis il dit faudrait qu'on mette un venir, faudrait qu'on mette un contreplaqué pour doubler.
T'es pas là pour checker.
Ton montage, là, mais tu sais, à la limite, c'est beau, tu peux faire confiance, mais là, le prix va être tant. C'est quoi le rapport de force? Qu'est-ce que tu peux dire comme client? T'es à job, c'est là, il attend une réponse dans les secondes qui suivent et c'est fini. Il faut que ça soit mis au départ, il faut que ça soit pensé, il faut que ça soit peut-être mis en option, au moins discuté au moment de la présentation. Là.
C'est ça. Mais ça, malheureusement, il y en a encore qui en parlent pas avec les clients. Puis c'est sur le fait, quand ils ont le contrat, que le matin, le client va être pris il va être au pied du mur avec justement cet extra-là qu'il n'aura pas le choix d'accepter. Puis mettons exemple, je donne un exemple. Moi, je la vendais 2000 pendant ma présentation initiale, mais lui, il va peut-être la vendre 2500 ou 2800, un coup qui va être sur place.
Ouais.
C'est triste, mais il y a quand même beaucoup de clients qui se font avoir avec cette méthode-là.
Ça me fait penser dans la pratique, on dit des fois, les gars. Et s'il ne l'a pas mis en option, mais que le venir est sur le camion le matin quand ça lise, il y a quelque chose de louche. Là.
Mais ça l'arrive.
C'est souvent ça.
Mais ça l'arrive. Ouais, ça l'arrive. Ah, ça. Ben non, mais tu sais, on le prévoit toujours. Ben oui, on le prévoit toujours. Mais tu sais, il y a des inspections qu'ils peuvent faire aussi, tu sais, pour la soumission, d'aller dans l'entretoit, ben, de regarder s'il y a des signes avant-coureurs. Il y a toujours des cernes avec l'eau, tu sais. Un venir à changer, c'est à cause qu'il va avoir... Je veux pas dire qu'il va y avoir de la moisissure qui va passer bord en bord, mais il va y avoir des cernes d'eau, il va y avoir des cernes de condensation, il va y avoir des signes précurseurs qu'on va voir.
Ben c'est ça, mais c'est pas long. T'sais, nous, on demande aux clients, est-ce que votre trappe d'accès est accessible? Oui. 85% du temps, c'est oui. On ouvre la trappe d'accès, on regarde l'isolation, on s'assure que les soffites soient bien débloqués, on regarde si c'est de la planche, on regarde... On ne va pas se promener à grandeur de l'entretoit. C'est sûr, c'est une pré-inspection, mais juste de se rentrer la tête au niveau de l'entretoit, tu as quand même une bonne aperçu de l'état de ce qu'il y en est. Tu es capable tout de suite de le dire au client, bon, ben, ça va vous prendre un rajout de laine ou ça va vous prendre des soffites, il va falloir débloquer vos soffites ou de mettre un contreplaqué.
Tu vois qu'il y a de la planche, tu sais qu'il va y avoir un contreplaqué qui va être à mettre, c'est facile à dire aussi. Puis tu sais, combien de personnes qui malheureusement vont pas prévoir la mise à jour des normes, parce que tu sais, entre les constructions des années 2000 versus maintenant, ça a évolué, les matériaux ont changé, les méthodes d'installation ont changé, qui fait en sorte que ça peut augmenter les coûts d'installation. Puis tu sais, combien de personnes vont dire « Ah, crime, finalement, votre installation n'était pas aux normes », puis refacture un montant supplémentaire qui va faire en sorte que ton plus cher soumissionnaire qui, lui, était legit, qui était partout correct.
Que tout était là.
Que tout était là, tout était déjà planifié ou ce que tu paraissais comme le plus cher. Puis que là, tu arrives avec un soumissionnaire moins cher qui, là, il vient facturer des extras qui fait en sorte qu'on dépasse le coût initial. Là.
C'est ça. Au final, dans le fond, t'es pas gagnant. On n'est pas gagnant d'y aller avec cette méthode-là. Puis aussi, au niveau des garanties, si jamais on installe sur de la planche, ben, tu sais, un peu comme qu'on discutait tantôt, si jamais, exemple, il y a un problème avec le bardeau dans 15 ans, puis le fabricant y arrive, il voit que ça a été installé sur de la planche, mais lui, il peut se dégager.
Ouais.
Il peut se dégager de sa garantie. Toi, tu payes pour avoir un bardeau 50 ans, avoir un bon produit, avoir une bonne qualité de produit. Puis dans ta tête, en tant que consommateur, ben, tu as une garantie de 50 ans. Tu dis, ouais, c'est ça, exact. Tu te sens protégé. Là, survient un problème, mais finalement, tu n'es pas protégé parce que tu n'as pas.
Mais comme tu disais tantôt, les petits caractères là, à respecter au niveau des garanties de toiture sont
importants. Il y en a plusieurs. Un des gages de succès là, pour moi, pour vous aider à prendre. Le bon entrepreneur pour vos travaux, de un, prenez groupe DBL, mais de deux, vérifiez si ça fait longtemps qu'ils sont en affaires sous le même nom d'entreprise. Parce que, tu sais, il peut y avoir des entrepreneurs en toiture, puis je ne veux pas dire les toitures, mais l'asphalte aussi sont beaucoup comme ça. Puis, tu sais, ils ont une compagnie d'asphalte cette année, une compagnie d'asphalte l'année prochaine, une autre compagnie d'asphalte l'autre année d'après. Finalement, ça fait 20 ans qu'il est en affaires avec 20 compagnies différentes qui ont toujours été ouvertes et fermées en chacune des fins des années. On n'essaie jamais que ça l'arrive, mais tu sais, la réalité est là. Si vous avez une entreprise qui est là de renom depuis plusieurs années, c'est un gage aussi où ce que si ça fait autant longtemps qu'ils sont là, ils veulent pas faire des appels. Tu sais, vous voulez pas faire des appels de service parce que la toiture a été mal installée.
Non, c'est pas payé.
Non, ben c'est ça. Nous autres, c'est sûr qu'on. Tu sais, nous autres, tu sais, moi, je dis souvent à mes contremaîtres et à mes équipes, quand on discute, on a quand même des meetings, on les rencontre quand même régulièrement. Puis moi, je dis aux gars, nous autres, on ne veut pas faire des toitures pour une saison. On veut faire des toitures, on ne veut pas que le client nous rappelle. Quand tu penses au moment présent, on veut pas oui, on a quand même plusieurs équipes, mais notre objectif, c'est pas de fonctionner et faire du volume. Mais on veut vraiment s'assurer d'avoir le contrôle sur chacune de nos équipes. Puis s'assurer que tout soit respecté aussi. Mais où, comme je disais souvent à Jean-Philippe, qui est comme mon bras droit, moi, je veux pas retourner ce médium. T'sais, retourner ce médium, on fait pas une toiture. On pense pas juste là, on pense à long terme. Fait que c'est là qui est important aussi, l'étanchéité des toitures. L'étanchéité des toitures, c'est pas le bardeau puis les joints de scellant qui fait l'étanchéité de base. Une bonne toiture bien étanche, mais normalement, avant même de poser le bardeau,
elle devrait être déjà étanche,
la toiture, juste avec les membranes et les scellants. C'est pas le pitch, c'est pas le bardeau, c'est pas le scellant qu'on met à la fin qui étanche la toiture. T'sais, nous autres, ça arrive, les accessoires, on met même pas de scellant, mais ma toiture, je sais que juste les membranes et les scellants font en sorte qu'elle est étanche. Mais ça va faire en sorte que tu vas de la toiture va être durable pour plusieurs années.
Ça va être périne pour plusieurs années.
Ça sèche pas, puis c'est bien monté.
C'est ça, tandis qu'une toiture étanchée au scellant, mais 4-5 ans plus tard, quand le tour du ventilateur ou de l'avant de plomberie,
il dépend de ça,
ça va finir par couler.
Tu sais, moi, je rajouterais, Jeff, tu dis, ça fait combien d'années que tu es en affaires, mais moi, je dis souvent aux clients aussi, poser plein de questions à la personne qui vient. Puis, tu sais, si l'entrepreneur qui est devant vous n'est pas prêt à répondre à vos questions ou vous sentez qu'il donne des réponses rapides ou qu'il a le goût de suite de passer un prochain appel puis qu'il ne prend pas le temps de vous guider, vous éduquer puis de répondre à vos questions, ça va déjà peut-être vous donner un son de cloche sur comment il va travailler une fois qu'il va être en train de faire le projet. Fait que je pense que c'est super important. On le sait pas tout le temps, là, dans le fond.
Puis, définir la valeur d'une personne ou d'une entreprise ne va pas nécessairement seulement sur le chiffre en bas de la soumission, de la commission, ou peu importe l'histoire de ça. Puis, tu sais, le résultat va sensiblement rester le même. Tu sais, que la toiture, elle a été installée de super bonne qualité ou de moins bonne qualité, il y a une nouvelle toiture, ça a arrêté de couler. Tu sais, le résultat va être le même. Mais est-ce qu'on en a eu vraiment pour notre argent? Puis là, c'est là que les gens sont pas capables de définir, tu sais, c'est quoi la vraie valeur de tout ça.
Ben, c'est ça. Mais tu sais, souvent, ça part du premier téléphone quand le client il appelle. Hein, comment que le client y est reçu? Comment il est reçu? Après ça, ben, le contact qu'il a avec son représentant, comme tu dis, quand tu poses des bonnes questions, c'est de quelle façon qu'il répond? puis c'est banal, mais juste le fait que le représentant, il arrive en retard ou qu'il arrive pas en retard. Tu sais, nous autres, c'est tous des petits points où que vraiment c'est important que quand si le rendez-vous est à 2 heures, c'est 2 heures, puis après ça, ben qu'il soit prêt à répondre aux questions. Tu sais, on a la documentation pour ce qui est écrit ou ce qu'on dit au client, mais on est capable de... On a la documentation qui vient, que ça vient de l'OPCHQ.
Vous êtes capable de prouver aussi l'information.
Vous êtes capable de le prouver, c'est ça.
Ben oui, puis tout ce que tu dis au client, tout ce que tu communiques, il y a un non-dit, mais je veux dire, il y a du non-tangible là-dedans. C'est parce que, tu sais, on le sait, il y a beaucoup de couvreurs qui ils partent avec leur soumission et ils laissent un cartable d'à peu près 60 fiches au client sur la certification de certainty, le si, le ça, la garantie, le saut. Le client, il regardera pas ça le soir. Là. C'est terminé. Ah, c'est l'impression qu'il y a eu de la personne et le prix proposé.
Mais c'est ça qui arrive souvent, c'est que quand il en fait venir, mettons, 5, 6, 7 entrepreneurs, on voit ça. Après ça, il est tout mélangé.
Ah oui.
Là, il sait plus tout, tu faisais quoi. Là, il a oublié ce que tu faisais. Mais tu sais, souvent, on travaille un peu comme... Pas dans le vide, mais tu sais, des fois, quand il en fait venir trop, là, il vient mélanger, il oublie ce que tu as dit, là, après ça, puis il lise pas.
Les gens ne lisent pas
la soumission. C'est important de bien lire, de bien comparer.
De comparer les bons matériaux aussi, là, parce que tu sais, tout se passe, puis tu sais, dans la construction neuve, même affaire, là, on achète une maison neuve, il y a un entrepreneur qui va charger 20-30 000 $ plus cher qu'un autre, puis les gens vont dire, oui, mais c'est la même maison. Oui, mais les composantes, la qualité des matériaux. Ouais. Puis, tu sais, justement, là, les allocations, là, quand tu as 1000 piastres de luminaire, là, je vous garantis qu'ils passent, tu sais, au rez-de-chaussée. Là. Puis, toutes tes encastrées ont passé dans les luminaires. Il en reste vraiment pas beaucoup.
Ta salle d'eau, de fait.
Ouais, puis, mais pour vrai, tu sais, des luminaires, tu sais, on a installé chez nous, là, il y a des fois, le luminaire coûte 1000 piastres aussi. Là, fait que, tu sais, il faut...
Tu pètes l'allocation assez vite.
Il faut vraiment faire attention avec ça. Puis, Groupe DBL sont spécialistes en toiture. Est-ce qu'il vous reste encore du temps pour la saison 2022?
On a encore du temps. On serait rendu après les vacances de la construction, mais on a toujours de la place. Mais si jamais, exemple, vous avez vraiment besoin ou il y a une urgence, on n'est pas polyvalent. J'ai plusieurs équipes en bardeau. Là, que,
encore plus cool, c'est si jamais vous dites, hey, je vous ai entendu à la bulle immobilière, esprit, tu sais, Jean-Michel.
Vous avez expressé là dans la minute. Ah, c'est 30 minutes ou c'est gratuit? Oh.
Ça, c'était Salvatore, je pense. Ouais, exact. Puis, si jamais nos auditeurs veulent avoir plus d'informations sur le groupe DBL, de quelle façon ils peuvent rentrer en communication avec vous?
Ben, vous pouvez soit appeler au bureau que Brigitte elle va se faire un plaisir de répondre à toutes vos questions.